Donc d'avoir un regard intériorisé et méditatif. Et là est tout le problème pour l'homme. Parce que l'homme tourne son regard vers le monde, son regard vers ses ongles s'ils sont bien peints, si le rouge est préférable au rose. L'homme tourne son regard vers son pantalon, sa robe. Est-ce que ma robe est assez cintrée? Est-ce que mes hanches ressortent suffisamment? Est-ce que ma mèche paraît suffisamment aérienne? Est-ce que mes dents sont bien blanches? L'ai-je bien impressionné? Parce que l'homme est tout tourné vers l'extérieur lorsqu'il se dit « Je vais devenir un directeur puissant. Je vais rentrer dans tel établissement et d'ici peu j'y ferai ma loi. » L'homme est tout tourné vers l'extérieur chaque fois qu'il regarde avec trop de profondeur ces choses en mouvement. Je ne moque pas de la femme qui s'interroge à propos de la minceur de sa taille. Je ne me moque pas non plus de l'homme qui s'interroge à propos du pouvoir de sa position sociale. Je me moque simplement du fait que si la femme, autant que l'homme, pousse leur regard trop profondément dans cette chose, la conscience qui est pure lumière et pure liberté va devenir captive. Et sans cesse, cette conscience va devoir réfléchir sur le sujet de la minceur de la taille ou de la puissance sociale. Ce sera son objet de méditation. Ce qui fait qu'en peu de temps, l'on retrouve une conscience qui était toute divine, avoir des obsessions très triviales. Car ce sont des obsessions. Ces attitudes-là ne sont pas des perversions de l'esprit qui a involué. Ces attitudes-là ne sont pas non plus les conclusions ou les justes conséquences d'un individu qui est trop pris dans l'incarnation et dans l'état de profane. Ces attitudes-là sont simplement des obsessions. Et ces obsessions-là, il faut les combattre, il faut les détruire. Ce qui fait que je ne vous propose pas, dès demain, pour vous prouver que vous ne vous souciez plus de la minceur de votre taille, je ne vous propose pas de prendre 10 kilos et d'être bedonnant. Cela ne me sert à rien, ce genre de témoignage. Je vous propose qu'au moment où vous tirez sur votre ceinture, pour être très élégante, je vous propose qu'à ce moment-là, vous soyez complètement détaché du phénomène. Et qu'il n'y ait plus que la recherche d'une beauté spirituelle. Cette beauté spirituelle peut être marquée dans le corps. Donc le disciple ne doit pas être moqué du fait qu'il va, par exemple, continuer à vouloir embellir son corps et sa tenue. Il faut qu'il se rende beau. Un être qui n'essaie pas de se rendre beau est un être qui a de nombreux problèmes. Un être qui s'habille n'importe comment, qui se tient n'importe comment, se coiffe n'importe comment, est un être très malade à l'intérieur de lui. Et c'est pour cela qu'il est malheureux. Et qu'il continue à s'habiller n'importe comment, à être négligé dans tous les sens du terme. Car autant que tu négliges ta tenue, sache que tu négliges ton esprit. De la même façon qu'un homme qui est équilibré va entretenir la toiture de sa maison, le jardin de sa maison. Tandis que s'il n'est pas équilibré, il va se moquer que le vent emporte les tuiles et que les rats ou toutes sortes d'animaux envahissent le potager. L'équilibre intérieur, la beauté intérieure, cherchera donc toujours à se refléter dans une beauté extérieure. Mais il faut que ce soit motivé par une beauté intérieure. C'est pourquoi il est inutile, notamment pour les filles, c'est à elles que je m'adresse plus précisément, car ce sont surtout les filles qui ont à négocier avec le concept de la beauté. Les hommes négocient plutôt avec le concept de la puissance. C'est pourquoi pour une fille, il est absolument inutile de cultiver sa beauté extérieure tant qu'il n'y a pas l'équilibre à l'intérieur. Un jour ou l'autre, son pouvoir attractif tombera complètement. Et c'est comme cela que vous pouvez comprendre pourquoi les grandes stars du cinéma, de votre cinéma, car il s'agit bien du vôtre, c'est comme cela que vous pouvez comprendre pourquoi les grandes stars du cinéma, malgré toute la beauté, malgré tous les délices physiques qu'elles sont capables de démontrer, pourquoi ces femmes-là ont des vies très malheureuses, des vies amoureuses pratiquement inexistantes. Pourquoi certaines d'entre elles sont même battues comme de vulgaires femmes de ménage, des femmes de harem quelconques. Cela existe pour ces femmes-là. Tout simplement parce qu'il existe un pouvoir supérieur à celui de l'allure et qui complète le pouvoir de l'allure. Et c'est le pouvoir de l'équilibre. Le pouvoir de la beauté intérieure. J'ai fait ce petit détour pour donc vous expliquer que je vous engage tout autant qu'avant à soigner votre corps, à soigner vos attitudes, à soigner votre langage, à soigner votre chevelure, à même pratiquer un peu de maquillage. Pourquoi pas ? C'est joli de faire un peu la fête. Cependant, pour que le vêtement, le maquillage, la coiffure ne soient pas un piège, une prison pour la conscience, il faut que vous fassiez cela depuis votre âme et non plus depuis votre psychologie, votre souci de plaire, d'être accepté et donc plus loin d'être aimé et de ravager les cœurs. Quelqu'un qui veut ravager les cœurs est un être très malheureux. Quelqu'un qui est à ce point à la recherche de l'amour prouve par là même qu'il y a longtemps qu'en lui-même il s'est séparé du concept de l'amour. Et c'est pourquoi cet individu cherche l'amour si puissamment à l'extérieur. Dites-vous bien que, autant qu'à l'intérieur, vous êtes séparé du concept de l'amour, à l'extérieur, vous allez vous précipiter pour le retrouver. Si au contraire, vous commencez à vous intérioriser pour découvrir la fontaine d'amour qui est en vous, d'autant vous allez vous détacher de l'extérieur, vous détacher de l'aventure amoureuse, vous détacher de la douleur que vous provoque le manque d'attention des amis, de la famille, de vos enfants. Vous aimez vos enfants parce qu'en fait, vous voulez que vos enfants vous aiment. La plupart des parents n'ont pas compris cela et c'est pour cela qu'ils deviennent insupportables et qu'un jour, les enfants sont obligés de les abandonner et qu'un jour, les enfants finissent même par les haïr tellement ces parents-là sont des prisons. Vous aimez vos enfants d'abord parce que vous voulez qu'ils vous aiment. Autrement dit, dans une main qui est tendue, il y a toujours, bien sûr, l'idée que l'on souhaite qu'elle se remplisse. Elle n'est pas tendue pour aller vers l'autre et prendre l'autre, aimer l'autre. Elle est tendue pour recevoir de l'autre. C'est pour ça que vous êtes si dur parfois avec vos enfants. Dès que votre enfant ne colle plus, ne joue plus le jeu, dès qu'il ne correspond plus à l'image idéale que vous vous en faites du bon élève, de l'enfant poli, de l'enfant très sage, dès qu'il ne fait plus, selon ce type-là, courir le sentiment d'amour et de perfection dans le foyer, automatiquement, vous vous prenez à être dur avec lui. Pourquoi ? Simplement parce que le genre d'amour que vous avez pour l'enfant, lorsqu'il est stimulé en fait par une quête spirituelle qui vous dit « mais cherche l'amour de Dieu, cherche l'absolu », vous allez donc attendre que votre enfant soit lui-même cet absolu. Donc il devra être sage, il devra être bien portant, il devra être bon élève. Parce qu'il devra être cet absolu. Mais il n'est qu'un enfant. Et comme vous, il n'est qu'un être humain. Comme vous, il aura des faiblesses. Comme vous, il pourra être capable de méchanceté, de désintéressement, de crise de nerfs. Et pour les épaules d'un enfant, c'est un peu trop lourd que de représenter Dieu et la quête de l'absolu, vous ne trouvez pas ? Donc, immanquablement, les parents seront déçus. Ils diront, au bout d'un certain temps, à leurs voisins, « Ah, faites des enfants, vous. Vous verrez ce qu'ils vous réservent. » Si tout a été de travers, comme vous dites, entre les parents et les enfants, ce n'est pas parce que les enfants ont des drôles de personnalité, ce n'est pas parce que les nouvelles générations sont toujours difficiles, ce n'est pas parce qu'elles vont empirer le monde et que l'on ne sait pas toujours quel rejeton on a mis au monde. C'est tout simplement parce que les parents, comme tout individu sur la terre, les parents, puisqu'ils sont des êtres humains, sont eux aussi en quête de l'absolu. Et la psychologie a cela de très difficile à vivre, que lorsqu'elle commence à soupçonner les besoins de l'âme, de se contempler elle-même, donc de retourner à elle-même, la psychologie fait des projections. Si elle n'a pas la réponse, elle va essayer de projeter pour avoir une réponse, malgré tout. Ce qui fait que l'être qui est en évolution, qui a cette ouverture inconditionnelle vers l'amour, qui a besoin d'amour, tout simplement parce qu'en fait son âme lui envoie l'impulsion qu'elle doit commencer à s'intérioriser, qu'elle doit commencer à se contempler elle-même, puisque c'est cela le jeu. L'individu qui reçoit cette impulsion ne sait pas toujours l'interpréter, ce qui fait que il va y avoir traduction dans le comportement psychologique. Ce qui fait que ce qui était quête de l'absolu dans l'âme va devenir aussi quête d'un absolu dans la personnalité, mais malheureusement pas du même absolu, pas de la même nature. Et alors que cette impulsion aurait dû amener l'homme à réfléchir à propos de son essence, et commencer par là donc une intériorisation, la psychologie va chercher satisfaction de l'amour, de la puissance, etc. dans le monde extérieur. Et c'est là que tout commence. C'est là que tout commence pour la conscience. C'est là que tout devient difficile, problématique. C'est là que l'homme croit qu'il doit absolument se marier. Et c'est là que la femme croit qu'elle doit absolument tomber amoureuse, que c'est ça la vie, et qu'hors de ça, là, cela, il n'y a pas véritablement de vie. Et c'est là que le couple, s'étant ainsi formé, pense qu'il faut absolument faire des enfants, et pense que ces enfants doivent absolument être sages, etc. Qu'est-ce que je démontre là ? Je démontre tout simplement que si vous étiez en train de contempler toutes vos aspirations, les aspirations qui paraîtraient quotidiennes, vous verriez noir sur blanc écrit devant vous quelles sont vos aspirations spirituelles. Chaque fois que vous avez envie d'aimer quelqu'un, que votre vie vous semble un peu trop vide parce que cela fait quelques mois que plus personne n'est entré dans votre vie. Chaque fois que vous sentez que vous allez partir vers quelqu'un, le premier qui sourira ou qui viendra vers vous, il faut que vous ayez à l'esprit le réflexe de penser que ce n'est pas une quête de votre cœur ni de votre incarnation. C'est un besoin d'amour de votre âme. Mais de quel amour ? Elle a besoin d'intensifier son propre feu. Donc, la quête humaine qui devient par déformation quête sociale, quête amoureuse, quête financière, car l'argent est très lié au septième rayon et au pouvoir, à l'alchimie. Car c'est l'argent qui mène le monde et qui fait les castes sociales. Lorsque la quête humaine tombée par incompréhension dans une quête du monde, vous pouvez voir un homme qui se trouve stimulé à gagner de l'argent alors que son âme, par exemple, le stimule à faire du rituel. Ce sont deux choses complètement opposées qui n'ont aucun sens. L'âme d'un côté qui demande de l'alchimie et l'homme de l'autre, sourd comme je ne sais pas quoi, qui essaye de gagner autant d'argent qu'il peut. Ce qu'il faut comprendre pour faire le pont entre ces deux indications, c'est que l'homme essaye de comprendre ce qu'il peut comprendre de la voix de l'âme. Et il comprend très très peu. Sa vision est très restreinte. Il se dit, d'accord, j'ai envie d'être puissant, j'ai envie d'avoir le pouvoir. Déjà, il se trompe sur la nature du mot pouvoir. Par quelle énergie passe le pouvoir ? Il regarde le monde très concret bien sûr, et il s'aperçoit que ce qui fait le pouvoir, c'est le commerce. C'est la spéculation, c'est l'argent. C'est le mot politique. Alors il se lance, à corps perdu, dans ses activités. Est-ce que cela veut dire que je demande à tous ceux qui font de la finance, de la spéculation et de la politique de laisser tomber Wall Street, de laisser tomber l'Élysée ou quoi que ce soit d'autre pour devenir de grands alchimistes à l'intérieur des caves? Non. Je veux simplement démontrer ce qu'est une impulsion divine à l'origine. Et ce qu'il en reste au bout de l'incarnation, lorsque l'homme, pas suffisamment développé, interprète cette impulsion. Par là même, en comprenant toutes ces déformations à propos de tous les sujets, vous pourrez vous-même comprendre mieux votre monde. Comprendre pourquoi il y a des accélérations, par exemple, dans la finance à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que la spéculation est menée dans ses sommets les plus hauts, les plus intenses? Pourquoi maintenant? Et quand vous aurez lu dans les livres ou quand vous aurez entendu votre ami vous dire que le septième rayon s'approche de plus en plus de la planète et que ce septième rayon c'est l'énergie de l'alchimie, alors vous aurez tout compris. Le monde devient soudain un livre ouvert qui vous indique tout. Il n'y a plus de mystère. Quand donc vous êtes dans la quête de l'amour, quand vous souhaitez rencontrer l'amour, partager la vie avec quelqu'un, sachez reconnaître, même si cela est intense à l'intérieur de vous et que le souhait est très ardent, sachez reconnaître que ce n'en est pas moins une attitude purement humaine, une attitude de l'incarnation. Tandis que votre âme, elle, dans ses plans supérieurs, ne pense qu'à une chose, c'est orienter son regard dans la contemplation de ses vertus. Et l'amour est une vertu de l'âme. C'est un composant de l'âme. Appelons la chose comme cela. Donc, ce qui stimule la vie de couple, c'est en fait la quête spirituelle. Quand les hommes et les femmes auront compris cela, la vie de couple deviendra quelque chose de merveilleux, au lieu d'être une série de poêles à frire et de casseroles qui traversent la cuisine. Eh oui. Quand le couple terrestre aura compris que chacun est en train de travailler à retrouver son androgyna, alors le couple sera quelque chose d'éminemment divin. Et chaque individu sera par là même un véritable complément de l'autre. Sera un véritable couloir, une véritable rampe de lancement pour une plus grande alchimie, une plus grande évolution. C'est ce qui donnera en même temps beaucoup plus de dimension à l'amour tout simplement humain. C'est ce qui fera que l'amour du couple sera moins égoïste et ne se passera plus simplement dans le lit, mais sera donné aussi en rayonnement sur tout le quartier. Et quand je dis cela, n'imaginez pas que les amoureux vont ouvrir la fenêtre pour que le quartier puisse voir ce qui se passe dans le lit. Je dis tout simplement que la richesse qui sera déclenchée par l'œuvre qui s'accomplit dans le lit, cette richesse, cette intensité de la beauté, va ensuite être une substance de rayonnement, une substance de vie lorsque le couple sera à l'extérieur. C'est ce qu'il vous faut cultiver, c'est cette beauté. Qu'est-ce donc que la beauté ? La beauté, ce n'est rien d'autre qu'un individu qui a fini de se faire la guerre. Lorsque vous regardez le paysage de la conscience d'un être qui est en évolution, vous apercevez qu'il y a une guerre intense. Dans ce paysage, il y a le complexe X qui se lève, qui remonte ses manches pour affronter le traumatisme Y, sans compter qu'entre les deux, il y a la conscience de ce pauvre homme qui se trouve par là même, boxé par le complexe, frappé par le traumatisme, sans compter que lui-même, lorsqu'il va dans la vie, il rencontre les épreuves que lui tendent les autres hommes. Il n'est donc pas étonnant qu'au bout de quelques années de ce genre d'exercice, les hommes finissent dépressifs. Tout à fait normal. Cette guerre intérieure, c'est ce qui amène la guerre à l'extérieur. C'est ce qui fait qu'un homme devient si puissamment vil pour vouloir manifester la guerre dans le monde. Car on ne manifeste dans le monde que ce que l'on crée à l'intérieur. Donc, si la beauté est la paix retrouvée, cela veut dire que le chemin qui mène à cette beauté, c'est le chemin spirituel, le chemin de réintégration. Pour retrouver cette paix, pour édifier cette beauté, cet équilibre, il y a l'intelligence de l'âme. L'intelligence de l'âme, c'est ce qu'on appelle aussi le troisième rayon qui est en vous. C'est un intermédiaire puissant qui va permettre à la conscience de passer du stade personnel à un stade universel. C'est ce qui va donc permettre à l'âme de sortir du petit cube de la matière pour retrouver son statut de vie universelle. Car ce qui a été fait du haut pour aller en bas peut se faire du bas pour aller en haut. Lorsqu'elle a évolué, lorsqu'elle est descendue dans la matière, l'âme a emprunté ce même chemin. L'âme a dû s'individualiser, se rétrécir, se compacter. Et il y avait une puissante raison à cela, je vous l'ai déjà dit. Il s'agissait pour elle de raviver ses feux dans la matière, dans le compact, dans le divisé. Lorsque cette réanimation a eu lieu, eh bien, il faut gentiment prendre le chemin inverse et donc repartir à l'universalité. Cela n'est pas si difficile. Mais entre-temps, si votre regard s'arrête trop sur les vitrines du monde, alors cela devient très difficile. Parce que l'on voit ainsi une âme qui veut partir en haut et une personnalité qui veut rester en bas. Exactement comme une maman qui veut amener son enfant à l'école alors que l'enfant veut rester avec ses jouets à la maison. Qu'est-ce qui va se passer ? Comme la mère est plus âgée et qu'elle est la mère et qu'elle a toute autorité, elle va bâtonner son enfant. Et c'est ce que le disciple appelle les épreuves. Et c'est ce qui lui fait baisser les bras lorsque cela lui arrive. Et c'est ce qui lui fait s'arracher les cheveux quand les problèmes surviennent. C'est ce qui lui fait dire « Mais Dieu, que t'ai-je fait pour que tu m'envoies tous ces problèmes ?» C'est ce qui lui fait, par exemple, contempler sa femme et se demander comment est-ce qu'il a été assez bête pour la choisir, ou vice-versa. Rien n'arrive qui ne soit pas utile à la libération. Même si les choses qui vous arrivent ne sont pas vos épreuves, c'est-à-dire si elles font tout simplement partie du mouvement des hommes et de la vie sur terre. Il faut cependant que vous utilisiez toutes ces occasions pour en faire des mouvements de libération. Car la liberté, c'est ce qui constitue le troisième aspect de la vie de l'âme. Il y a la beauté, l'intelligence, la liberté. Est-ce que cela ne vous semble pas étrangement ressembler à la quête humaine ? Tout le monde veut être beau, très intelligent et très libre. Ce que l'homme veut, Dieu le veut donc lui aussi. Sauf que l'homme veut ces choses sur la terre. Alors que Dieu qui est en lui veut ces choses dans son ciel. Et le conflit vient de ce que l'homme qui veut ces choses sur la terre empêche Dieu qui est en lui d'obtenir ces choses dans le ciel. Et c'est pour cela que sont mises au point ensuite les épreuves. Et c'est pour cela que des dizaines de milliers d'anges sont monopolisés pour se gratter la tête, se gratter le fin fond de l'intelligence, pour savoir comment ils vont faire un plan qui va s'appeler karma, pour tenir des dossiers ligne par ligne, pour savoir lequel va s'incarner à tel moment, dans quelles circonstances, avec quel corps, dans quelle école, avec quels parents, qu'est-ce qu'il va rencontrer comme épreuve, comme problème, à telle époque de sa vie ou à telle autre, est-ce qu'il y aura la guerre, l'inflation ou la paix ? C'est un plan extraordinairement compliqué, alors que tout serait si simple. Les anges ont autre chose à faire que de dresser les plans karmiques. Et pourtant, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils préféreraient de beaucoup venir vous aider à l'alchimie qui vous est proposée, à la libération qui vous est proposée. Alors, si j'étais un ange, un de ces anges, comment je vous parlerais ? Eh bien, si j'en étais un, je vous dirais, c'est simple. Fais toute chose comme un ange le ferait. Fais toute chose avec le sourire. Fais toute chose sans vouloir les retenir. Fais toute chose sans avoir peur. Fais toutes choses comme un ange le fait. Et tu seras plus qu'un ange. Car l'ange est celui qui vient te baiser les pieds lorsque tu es un homme accompli. Il devient ton serviteur parce qu'il a ce rôle. Il est le collaborateur. Comment faire toutes ces choses? Pour pouvoir les faire, il faut avoir compris quelque chose de simple, mais de capital. Il faut avoir compris le mot « drame » et s'apercevoir qu'en fait, l'homme a mis du drame partout dans sa vie, comme un mauvais poète, comme un mauvais écrivain. Du drame. Je me suis coupé le doigt, c'est un drame. Tout le monde doit regarder mon doigt, il est en sang. Je suis veuf ou divorcé, c'est mon drame. Alors que la terre s'arrête de tourner pour contempler mon drame qui est là au centre de mon nombril. Mon enfant m'a quitté ou mon enfant est un vaurien. Il se drogue, ou bien ma fille se prostitue, c'est ma douleur. Alors écoutez-moi tous et venez me consoler, cela m'est arrivé à moi, à moi. Et puisque cela m'est arrivé à moi, cela est donc moi. Ce qui fait que la mère pense très vite qu'à travers sa fille qui se prostitue, c'est elle qui est prostituée. Et c'est pour cela que la mère n'arrive pas à supporter que sa fille soit une prostituée. Et c'est pour cela qu'elle redouble de violence pour essayer de l'en sortir. Mais qu'elle ne l'en sort pas par amour. Et c'est pour cela que cela échoue. Elle essaye de l'en sortir par égoïsme. Pour protéger sa propre image. Au fond d'elle-même, au fond de sa psychologie, c'est cela. Je protège ma vie, celle qui vit à travers ma fille. Et si ma fille est une prostituée, alors elle me prostitue. Je suis moi-même déshonorée. Et voilà encore la mauvaise habitude de la projection. Je ne te dis pas que tu dois laisser ta fille être une prostituée. Je ne te dis pas ces choses. Je te dis simplement, si tu veux la sauver, n'agis pas pour toi-même. N'agis pas parce que tu as honte d'elle. Car si tu as honte d'elle, tu vas agir pour toi-même. Tu seras égoïste et tu es pire qu'une prostituée. Tu es pire qu'elle. Car tu te prostitues vis-à-vis de chaque individu, dans la pensée. Tu te vends pour être vue comme étant la meilleure, la plus propre. Mais tu te vends. Tu te vends au jugement de l'autre. Et pour paraître belle et propre, alors tu vas dire oui quand tu penses non. Tu vas sourire quand tu voudrais mordre. Et c'est la plus grande des prostitutions, c'est celle de l'esprit. Celle du corps est peu de chose à côté de cela. Donc je ne te dis pas que tu dois laisser ta fille continuer à être prostituée. Je dis simplement que tu n'arriveras à la sortir de cette prostitution que lorsque tu auras cessé d'avoir honte, car ta honte, ce n'est que de l'égoïsme. Quand cet égoïsme t'aura quitté, tu auras véritablement envie de sauver ta fille et tu sauras à ce moment-là comment t'y prendre. Tu commenceras par ne plus lui dire qu'elle fait mal, qu'elle est sale, qu'elle est coupable, qu'elle est une honte. Ton regard aura complètement changé et tu la regarderas comme l'initié dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu verras une lumière intacte qui est en elle, dont elle est ignorante. Et tu verras le manteau de cette lumière s'abîmer dans la prostitution. Et tu essaieras de laver ce manteau. Sans plus jamais culpabiliser la lumière qui est dans le manteau. Et c'est comme cela que tu vas gagner. C'est comme cela que tu enlèveras le besoin de la drogue à ton fils. Ou que tu enlèveras d'autres défauts très vilain, chez le mari, ou chez la femme, ou chez le voisin. Il faut que tu commences, pour avoir une action alchimique sur les autres, il faut que tu commences par ne plus juger les autres, par ne plus voir ta vie à l'intérieur de la vie des autres, déclenchant ainsi le phénomène de la honte. Il faut que tu sois déjà toi-même un entier. Un homme que rien ne peut avilir, même pas si, ayant 10 filles, ces 10 filles sont 10 prostituées. Il faudrait qu'en ayant 10 filles qui soient 10 prostituées, tu sentes que toi-même, tu restes un homme propre. À ce moment-là, tu peux véritablement regarder la lumière du Christ en face. Tu en es digne. Et il pourra te la donner, sa lumière, pour pouvoir aller rechercher ces enfants qui sont avant tout les siens, pas les tiens. Donc, lorsqu'un homme se trouve dans la vie, on s'aperçoit qu'en fait, il est à la recherche de la même chose que son âme. Sauf qu'il se trompe dans le type des matériaux à utiliser. Tout le monde va être beau, intelligent et libre. C'est exactement la même chose que cherche l'initié. Il veut être beau, mais il cherche la beauté de l'âme. Il ne se permet donc plus une mauvaise pensée, une mauvaise parole, un mauvais acte. Même si de temps en temps, lorsque cela est nécessaire, il doit agir avec le tranchant de l'épée, ou le tranchant de la parole, ou le tranchant de la pensée. L'initié cherche lui aussi l'intelligence, c'est-à-dire qu'il cherche à rentrer en contact avec l'omniscience de son âme. Il cherche aussi la libération, la plus grande, celle qui lui permettra de dire définitivement adieu à la matière, à la planète, à tous les hommes. Vous qui êtes donc dans le monde, vous cherchez la même chose que les initiés. Les initiés cherchent donc la même chose que vous. Vous êtes les mêmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a ni initié ni profane. Il y a une lumière qui cherche, qui veut se retrouver, parce qu'elle est allée suffisamment en bas de l'échelle où elle devait aller et qu'il lui faut maintenant remonter l'échelle. Dans ce schéma, donc, il n'y a ni initié, ni profane. Il y a un homme qui sait ce qu'il cherche et il y a un homme qui ne sait pas ce qu'il cherche. Mais comme il sent qu'il doit chercher, alors il cherche. Et il se dit, si je cherche, je dois trouver. Mais qu'est-ce que je dois trouver? Puisque je suis dans le monde, je dois trouver les objets du monde. Et ainsi, il se met à la recherche de l'argent et il trouve l'argent. Et ainsi, il se met à la recherche de l'amour et il trouve l'amour. Mais soudain, que lui démontre le monde? Le monde lui démontre une loi qui lui semble inacceptable, qui ne lui semble pas divine. Et c'est là que le disciple commence à envoyer des feuillets incessants de réclamations au bon Dieu. Et le disciple écrit, « Notre Père qui est aux cieux, tu m'as mis sur terre. Sur terre, je dois manger. Pour manger, je dois gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, je dois travailler. Dis-moi donc, pourquoi tu ne viens pas régler le problème du chômage ? Notre Père qui est aux cieux, tu m'as fait homme et tu as fait une femme et tu as fait l'amour. Cela veut donc dire que l'homme va se rapprocher de la femme et qu'il doit pour cela trouver une femme. Pourquoi est-ce que tu me laisses dans le célibat ? Et ainsi de suite, la liste s'allonge, jusqu'à ce qu'un jour le disciple dise au bon Dieu, « Mais pourquoi as-tu inventé la mort ?» Ceci vient du fait que le monde offre des instruments, mais ces instruments n'étant pas l'aboutissement de la quête, ces instruments sont très versatiles. Alors que les instruments qui sont l'aboutissement de la quête, ceux-là sont éternels. C'est pourquoi l'homme qui est à la recherche de l'amour, mais qui se trompe d'endroit, va chercher l'amour dans le monde, il va peut-être le connaître 15 jours, 3 mois, puis très vite c'est le divorce, ou bien la cessation de la passion, ou bien, voire certaines fois, la mort de l'être aimé. Alors le disciple s'interroge et se dit, mais il n'y a pas d'amour possible. D'abord parce que la passion ne dure pas longtemps, maintenant c'est très connu, j'ai assez vu de films pour le savoir. Et puis aussi parce qu'un corps n'est pas éternel. Le corps de ma bien-aimée ou de mon bien-aimé peut m'être ravi par la mort à tout instant. Donc cet amour que je veux se dérobe toujours à moi. Et à ce moment-là, le disciple commence à regarder d'un œil très réprobateur tout le plan de Dieu. Et il commence à reprocher à Dieu le fait qu'il ait inventé la mort, ou qu'il ait fait que la passion ne dure pas, ou qu'il ait fait que le pouvoir sexuel ne dure pas, et qu'un jour, eh bien oui, à la fin de l'âge, on ne doit plus se contenter que de se regarder dans les yeux. Ce n'est pas Dieu qui a inventé ces choses. Ce n'est pas Dieu qui a décidé que la mort existerait. Ce n'est pas Dieu qui a décidé que la passion ne se perpétuerait pas, pas plus que l'activité sexuelle et toutes les autres choses. C'est la nature qui a construit ces choses de la manière dont elles vous apparaissent, c'est-à-dire inconstantes et versatiles. Et ceci pourquoi ? Simplement parce que la nature, c'est-à-dire Dieu incarné dans le monde, dans la matière, la nature est régie par la loi du balancier. Comme la nature est la matérialisation de Dieu, c'est donc Dieu dans son état de matérialité le plus poussé. Cela veut dire que cela sera Dieu dans son effet d'apparition et de disparition. Car qui dit matière dit forcément manifester. Mais réfléchissez un peu plus loin. Si je vous dis que matière veut dire manifester, vous savez qu'il existe en même temps le non manifesté. Qui dit nature, nature du monde, dit donc manifester, non manifester. La nature est construite sur ce type-là, le manifester, le non manifester. Avec cela de différent, par rapport à la manifestation géante du macrocosme, qui dure beaucoup plus longtemps que la manifestation d'un arbre, ou la manifestation de votre vie physique, ou de votre passion amoureuse, etc. Avec donc cette petite différence que, puisque l'on se trouve en bas de l'échelle de la création, où tout va vibrer extrêmement rapidement, l'on va donc subir le passage de la manifestation à la non-manifestation de façon très rapide aussi. C'est pourquoi la passion apparaît puis disparaît. Ce n'est pas parce que Dieu a fait en sorte qu'il existe une épreuve émotionnelle et qu'au moment où vous voyez une jolie fille tomber amoureuse de vous, et bien 2 minutes après, il lui fait croiser un très beau garçon et que celle-ci s'en va avec celui-là et que vous vous retrouvez dans la douleur. Dieu n'a pas créé la passion comme étant éphémère. Il n'a pas créé les émotions comme étant éphémères. Il a créé, ou du moins, il est et il vous permet d'être l'amour. Par contre, ce qui paraîtra éphémère, ce sont les différents mouvements de cet amour dans le monde, les différents degrés de manifestation. Qu'est-ce qui fait que cet amour va soudain aller du manifesté au non manifesté et faire ainsi cesser la passion, par exemple? Ce qui va provoquer le phénomène, c'est tout simplement le fait que la chose que vous extériorisez dans le monde n'est pas l'absolu de l'amour. Si ce n'est pas l'absolu de l'amour, cela va donc appartenir à la nature, au règne de la nature. Le règne de la nature est impitoyable. La nature est constituée pour faire apparaître et disparaître. C'est cela qui perpétue la vie. Donc, chaque fois que votre amour ne sera pas absolu, il va apparaître, flamber très fort, puisqu'il ne peut apparaître qu'un court instant. C'est normal que d'un seul coup il y ait une immense flamme qui vous envahisse, parce que c'est le seul moment où cette flamme peut vivre, donc elle se dépêche d'exister. Mais comme son type de manifestation tombe sous le joug du règne de la nature, alors aussi vite qu'elle s'est manifestée, la flamme va retourner au non manifesté. Et le pauvre bougre qui est le théâtre de ce phénomène ne comprend pas pourquoi il y a 2 minutes il était amoureux de cette fille.